Parmi les manifestants aujourd'hui à Kiev, il y a bien sûr ceux qui veulent absolument rompre toute relation avec la Russie. Et puis, il y a ceux qui sont plutôt favorables à un rapprochement avec l'Union européenne, non pas pour rompre toute relation avec la Russie, mais pour, en tous les cas, essayer de limiter le lien de dépendance qui peut exister, et notamment de dépendance économique qui peut exister entre l'Ukraine et la Russie. Donc ce n'est pas une question d'être pro-russe ou pro, si je puis dire, ukrainien. On a même parlé là de reconstitution de l'Union soviétique, donc est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter la notion de pro-soviétique? Mais je crois que c'est un petit peu plus complexe, même si on peut penser qu'effectivement la classe moyenne de Kiev n'a pas les mêmes aspirations et les mêmes préoccupations, là aussi en termes économiques et sociaux, que les mineurs du sud-est ukrainien, qui constituent notamment une partie de l'électorat Yanukovych et qui, sans doute, doivent être nettement plus inquiets de la politique libérale et concurrentielle de l'Union européenne que de relations économiques avec la Russie, qui finalement ne demandent pas à l'Ukraine de profondes réformes structurelles.
Kiev est écartelé entre Moscou et Bruxelles. Est-ce qu'il y a des ferments de division au sein du pays ?
Donner la ville de Donetsk, hein, cette ville fortement russophone et très industrielle de l'Ukraine. Et puis, à l'ouest, on a la ville de Lviv, moins industrielle, plus tournée vers les services, vers une ancienne université, un monde intellectuel. Donc, bien évidemment, on a ces divisions-là, mais Kiev est assez représentatif, si je puis dire, où on a ces populations-là qui, quelque part, par les effets migratoires aussi, se mélangent. On a des ukrainophones, des russophones, un milieu intellectuel plutôt ukrainophone, pro-européen, et puis un milieu des affaires qui effectivement peut être aussi, si je puis dire, tourné vers des entreprises étrangères, mais où la russophonie prédomine.
Le pouvoir a déclaré qu'il peut signer avec l'UE ce fameux traité d'association si Bruxelles débourse 20 milliards d'euros. C'est le plus offrant qui arrivera à arracher l'alliance de l'Ukraine.
C'est effectivement le cas, malheureusement. On l'a vu, hein, les dirigeants européens ont déjà évoqué cette question du chantage financier suite à l'annonce de la suspension de la signature de l'accord d'association par Yanukovych, où ils étaient assez outrés, si je puis dire, de cette manière de fonctionner. C'est une manière extrêmement pragmatique, un peu brutale, qui rappelle aussi la manière dont on pouvait négocier pendant la période soviétique. Donc une forme peut-être un peu rétrograde de considérer la diplomatie et les négociations avec les pays étrangers. Donc effectivement, il y a une préoccupation économique dans le pays. Yanukovych est président. Il y a des élections présidentielles en 2015. La situation financière de l'Ukraine n'est pas bonne. Il faut de l'argent rapidement. Donc, bien évidemment, cette question du plus offrant est en jeu, sachant que l'Union européenne fournit une aide économique depuis des années à l'Ukraine et qu'elle continuera à en fournir si cet accord d'association est signé. Mais bien évidemment, il y a des conditions politiques, économiques. On demande à l'Ukraine de se réformer. Ce n'est pas un chèque en blanc. Et là, bien évidemment, ça peut être aussi coûteux pour le pouvoir que d'avoir à engager des réformes qui, peut-être, entraîneront des conséquences peut-être impopulaires dans le pays, notamment d'un point de vue social. Je parlais notamment de la question de l'augmentation du chômage pour un certain nombre de secteurs qui ne sont plus forcément compétitifs dans le cadre d'une zone de libre-échange européenne.